Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 23, le mariage dans le plan de Dieu. Nous voici donc arrivés à l'étude du dernier des sacrements, à savoir le sacrement de mariage. Vaste sujet qui va nous occuper pendant plusieurs épisodes, parce que évidemment beaucoup sont concernés par le mariage et tout ce qui tourne autour. On va essayer de développer toutes ces questions, aussi bien l'aspect théologique du mariage dans ce premier épisode que les aspects canoniques, même sociaux, du mariage et l'importance du mariage chrétien. Alors, sans plus attendre, commençons par poser les choses. Quel est le destin de Dieu sur l'homme et sur la femme? Dieu, qui est amour et qui a créé l'homme par amour, l'a appelé à aimer. Voilà le fondement du mariage chrétien. C'est l'amour, effectivement, et c'est l'amour comme don de Dieu, et donc comme don mutuel. C'est une question sur laquelle on reviendra beaucoup, mais l'amour chrétien, ça ne consiste pas à ressentir des papillons dans le ventre. C'est pas ça l'amour. Évidemment, ça peut commencer comme ça. Ça commence souvent comme ça. L'amour, au sens profond, au sens chrétien, bien sûr, c'est d'abord le don de soi pour l'autre. Voilà, le renoncement à soi-même pour quelque chose de plus grand, pour une union, pour une autre personne, par amour. Alors, toutes les formes d'amour, d'ailleurs, consistent en ce renoncement. L'amitié, c'est exactement ça. Aimer son ami, c'est être capable de prendre sur soi de son temps, de ses biens, de ses émotions, de ses sentiments pour l'autre. L'ami, c'est celui auquel vous êtes capable de, enfin pour lequel vous êtes capable de renoncer à quelque chose parce que vous voulez son bien. L'amour d'une mère pour son enfant, c'est exactement ça. Une mère est prête à se sacrifier, à renoncer à beaucoup de choses pour le bien de son enfant. Et donc l'amour conjugal, c'est exactement la même chose. Et toutes ces formes d'amour, en fait, sont des images imparfaites. Puisque ici-bas, l'amour n'est pas parfait. Ce sont toutes des images de l'amour par lequel Dieu a créé l'homme, mais surtout de l'amour que Dieu est en lui-même. Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire qu'il est don. Il est, d'ailleurs, il est don de soi. D'ailleurs, dans la circulation entre les personnes divines, le Père engendre le Fils, ce qui est une forme de don. Le Saint-Esprit est ce qui est le résultat de l'amour mutuel du Père et du Fils. Voilà. Donc tout est une question d'amour. Alors, mais d'amour vrai, d'amour radical et, comme je disais, d'amour qui s'accomplit dans le sacrifice. Et c'est en ce sens que, évidemment, le sacrifice du Christ est l'acte d'amour le plus beau, le plus grand. Comme il le dit lui-même, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, je reviens à ma question, donc question 337. Quel est le destin de Dieu sur l'homme et sur la femme? Dieu, qui est amour et qui a créé l'homme par amour, l'a appelé à aimer. En créant l'homme et la femme, il les a appelés, dans le mariage, à une intime communion de vie et d'amour entre eux. Ensuite, il y a une citation de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. « À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul, ou une seule chair. » En les bénissant, Dieu leur a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Ça, c'est une citation du premier chapitre de la Genèse. Alors, plusieurs éléments, on pourrait parler longuement, j'ai fait beaucoup de préparation au mariage, et donc on peut parler des heures du sens du mariage dans le plan de Dieu, mais j'aimerais souligner pour l'instant un élément, à savoir que, effectivement, en créant l'homme et la femme, Dieu les a appelés à une intime communion de vie et d'amour. La première distinction qui existe dans le récit biblique de la création, c'est cette distinction entre homme et femme. On trouve ça dans le chapitre 2. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Dans le chapitre 2, c'est vraiment immédiat, c'est-à-dire que c'est pas Dieu créa un homme et puis ensuite la femme, comme ce sera le cas dans le récit suivant, où Ève sera tirée du côté d'Adam. On y reviendra. Mais dans le premier récit de la création de l'homme, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, point. Homme et femme, il les créa. Il y a cette complémentarité entre l'homme et la femme dès l'intention divine, dès le début, dès le premier homme, la première femme, mais à la source de l'intention divine. Donc, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est pas une erreur. C'est pas un accessoire. C'est pas quelque chose de secondaire. Voilà. L'homme et la femme sont constituent l'humanité comme deux réalités qui se complètent, qui ne s'opposent pas, et tous ceux qui veulent faire des conflits entre les hommes et les femmes, eh bien, ne comprennent pas le plan divin. Alors, effectivement, dans le deuxième récit de la création de l'homme, au chapitre 3 de la Genèse, il y a cette description qui est très imagée, bien sûr, mais qui est très importante, d'Adam qui appelait à donner leur nom à toutes les créatures. Et parmi toutes les créatures, il n'en trouve pas une qui soit à sa hauteur. Il n'en trouve pas une qui puisse lui servir de compagne et qui vraiment le comprenne. Et donc, Dieu va créer la femme pour que l'homme ne soit pas seul. C'est-à-dire, pour ce que signifie ce récit, c'est que dans toute la création, dans toute la créature, parmi toutes les créatures, il n'y en a pas une qui soit l'égale de l'homme comme la femme. Évidemment, ça met en évidence que la femme est tout à fait l'égale de l'homme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Ève est tirée du côté d'Adam, pour que jamais l'homme ne puisse dire que la femme n'est pas son égale ou que la femme serait d'une autre espèce. Et justement, envers laquelle il pourrait ou il devrait rentrer en concurrence. Non, il y a une complémentarité parce qu'ils viennent de la même chair, de la même matière. Donc, bien sûr, Adam est le chef de l'humanité en tant qu'il est le premier des hommes, mais Ève n'est pas d'une autre souche, elle n'est pas d'une autre race, elle n'est pas d'une autre espèce. Et d'ailleurs, elle n'est pas d'Adam, évidemment, donc elle n'est pas engendrée par Adam, donc il n'y a pas de supériorité d'Adam sur Ève, mais Ève est prise du côté d'Adam, côté c'est le cœur, évidemment, comme le cœur ouvert du Christ sur la croix, hein. Il y a toute une symbolique, évidemment, parfaite, mais on y reviendra tout à l'heure, mais comme l'Église née du cœur transpercé du Christ, de même, Ève est tirée du côté d'Adam, mais donc ils sont de la même espèce, de la même matière, de la même réalité, et donc voilà ce en quoi constitue ce don de Dieu, parce que là aussi c'est très intéressant, c'est Adam qui se plaint de sa solitude, qui ne trouve pas dans la créature une créature qui le console, qui l'accompagne, qui le satisfasse tout simplement, et donc Dieu donne la femme à l'homme comme un don. Ça c'est aussi très très intéressant, c'est-à-dire que voilà, dans un couple, quand ça ne va pas, il est bon que l'homme se rappelle que sa femme lui a, bien sûr c'est lui qui l'a choisi dans la plupart des cas, mais même si c'est lui qui l'a choisi, eh bien la femme est toujours un don pour l'homme, et réciproquement, il faut que les mariés, quel que soit leur l'état de leur mariage ou quelle que soit leur considération mutuelle, qu'ils voient l'autre comme un don de Dieu, avec ses points positifs et ses points négatifs. Alors, désormais, ils ne sont plus deux, mais un seul. Voilà cette intime communion de vie et d'amour entre eux, c'est tout le mystère de la transmission de la vie, tout le mystère de l'amour humain, c'est que l'amour qui fait que on n'est plus deux mais un seul. Et voilà bien sûr on va reparler du mariage, mais il me semble que c'est ça finalement le secret, j'allais dire, ou la compréhension fondamentale de ce qu'est le mariage chrétien. C'est que le mariage chrétien ne consiste pas à ce que deux individus fassent une équipe. Il s'agit pas de ce qu'ils fassent une colocation, quoi, en disant ça nous intéresse l'un et l'autre de se mettre ensemble. Il y en a un qui va sortir les poubelles et puis l'autre qui va faire la vaisselle. Ou alors, on va dormir dans le même lit et puis on va se faire plaisir mutuellement. Très bien. C'est pas ça le but du mariage. C'est pas ça qui est l'essence du mariage. Le mariage, c'est d'avoir un projet commun. De créer une unité. C'est-à-dire que de se mettre ensemble pour quelque chose qui dépasse l'un et l'autre. Et pour lequel l'un et l'autre sont prêts à se sacrifier. Et la famille chrétienne, c'est ça. La famille, dans le plan divin, c'est quelque chose qui dépasse les individus et qui vaut toutes les peines, enfin qui vaut la peine de se sacrifier, de renoncer à soi-même, etc. Pour évidemment pour le bien des enfants et pour l'unité et la cohérence de ce que l'un et l'autre ont fondé ensemble et que l'un ne pouvait pas fonder sans l'autre. Et à partir du moment où, vous savez, c'est ce qu'on appelle un bien commun. Toute société consiste à avoir des choses, des biens qui n'appartiennent pas à l'un et à l'autre, mais qui appartiennent en commun aux deux. Et vous voyez, dans une société, c'est pas parce qu'on se met ensemble que nécessairement on forme une société. Vous voyez, des brigands qui se mettent ensemble, des voleurs qui se mettent ensemble pour mettre leurs talents en commun pour voler plus d'argent. Vous voyez, comme dans les films Ocean's Eleven, par exemple, etc. Vous avez tous vu ça. Et on va chercher les meilleurs des braqueurs se mettent ensemble pour voler un plus grand butin. Mais en général, dans les films de vol comme ça, à la fin, il y a toujours un qui est plus malin que les autres et qui les flingue tous et pour se récupérer le butin pour lui tout seul. Parce que chacun travaille pour son intérêt propre. Ils mettent en commun leurs efforts pour leur intérêt personnel. Et des gens qui s'engageraient dans le mariage avec cette mentalité, de dire en fait on va mettre en commun nos efforts, mais parce que c'est ça qui m'intéresse moi, c'est sûr que ça marchera pas comme mariage. C'est parce que ce sera pas un mariage au sens de s'engager pour un projet, pour quelque chose de plus grand. Bon, j'ai été assez long, mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et il y a beaucoup de couples qui mériteraient de revenir sur leur mariage, d'y réfléchir à nouveau, et peut-être de transformer un peu leur intention pour que leur mariage soit fécond, fructueux et les rende heureux. Alors, je termine en les bénissant. Dieu leur a dit, soyez féconds et multipliez-vous. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu, le fait d'avoir des enfants. C'est un ordre de Dieu. Et donc, il est bon d'avoir des enfants, il est bon d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà, je fais un petit couplet. En faveur des familles nombreuses, il est très important, surtout en France aujourd'hui, que les familles chrétiennes aient des enfants. C'est bien dans les autres pays aussi, que chacun... Je parle pour la France parce qu'on est en France, mais évidemment que c'est un ordre de Dieu, c'est une mission que Dieu nous confie, que Dieu confie aux hommes, de peupler la terre. De peupler la terre. Et alors, toutes les théories sur le fait qu'il y a trop d'êtres humains, etc., évidemment, s'éloignent du plan de Dieu et des offenses à Dieu et à son plan pour l'humanité. Alors, ayez des enfants, sauf si vous avez la vocation, évidemment, c'est de l'exception. Il y a une question juste après justement qui dit est-ce que le mariage est une obligation pour tous? Ceux qui ont la vocation, telle ou telle vocation bien sûr, religieuse ou sacerdotale, eh bien évidemment ils ne sont pas appelés à avoir d'enfants, mais ils sont appelés aussi, comme ceux qui ne sont pas mariés, à une certaine fécondité. C'est-à-dire que Dieu dit justement dans la Genèse, soyez féconds et multipliez-vous. Et il y a plusieurs formes de fécondité. Même quelqu'un qui est célibataire est appelé par Dieu dans le plan divin à avoir une fécondité spirituelle, intellectuelle, à ne pas rester renfermé sur lui-même. Alors qu'une fécondité spirituelle, ça veut dire, par exemple, un professeur qui engendre la pensée, de la réflexion, des concepts dans l'esprit de ses étudiants. Et donc voilà, en tout cas, je close ce petit couplet sur les familles nombreuses. Je sais que c'est difficile, évidemment, avec aujourd'hui les circonstances, les situations économiques. Mais ça me semble être aussi parfois une fausse excuse. C'est que, oui, j'en parle d'autant plus volontiers que, vous le savez sans doute, je suis d'une famille de 9 enfants. 3e de 9 enfants. Alors évidemment, on n'allait pas au ski tous les ans. On partait pas à l'étranger, sous les tropiques. On n'avait pas des super bagnoles, etc. Mais on était très heureux. Et je pense que c'est notre richesse, la richesse aussi bien des enfants que pour mes parents. Leur richesse, c'était évidemment leurs enfants. Et je pense qu'il faut mieux avoir comme richesse des enfants qui vont durer plus longtemps, qui vont à leur tour grandir, etc., plutôt que les biens matériels, évidemment. Voilà, je passe à la question suivante. Alors, question aussi tout à fait fondamentale. Pour quelle fin Dieu a-t-il institué le mariage? Alors, je lis les réponses et puis on va commenter après, comme d'habitude. L'union matrimoniale de l'homme et de la femme, fondée et structurée par les lois du Créateur, est ordonnée par nature à la communion et au bien des conjoints, à la génération et à l'éducation des enfants. Selon le plan originel de Dieu, l'union matrimoniale est indissoluble, comme Jésus-Christ l'a affirmé. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc, chapitre 10, verset 9. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Donc, ici, c'est une définition du mariage, puisqu'on définit les choses par leur but. L'union matrimoniale de l'homme et de la femme, fondée et structurée par les lois du Créateur. Donc, c'est pour dire que les questions de morale matrimoniale ne sont pas des règles, des lois positives que l'Église aurait inventées pour embêter les gens ou pour mettre de l'ordre. Hein. C'est fondé, structuré par les lois du Créateur. C'est-à-dire que les lois de la sexualité humaine, évidemment, sont inscrites dans la nature même de l'homme, donc dans sa création. Ces lois ne sont, encore une fois, ce sont pas des lois qui peuvent évoluer, qui peuvent changer selon les époques et selon les modes du moment. Mais ce qu'on appelle la loi naturelle, eh bien, c'est inscrit dans la nature même des hommes, nature qui n'évolue pas, qui ne change pas. Alors, donc, elle est ordonnée, dit ici le catéchisme, par nature, à la communion et au bien des conjoints, virgule, à la génération et à l'éducation des enfants. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle les deux fins du mariage. Donc, d'une part, la génération et l'éducation des enfants. En fait, l'union sexuelle, l'union matrimoniale, et a pour finalité la génération et l'éducation des enfants. Alors, je dis, pour tout de suite, il y a une objection. Évidemment, ça ne veut pas dire que chaque relation sexuelle entre un mari et une femme doivent aboutir à la procréation. Hein, évidemment, non. Mais dans la nature, selon les lois fixées par le Créateur, eh bien, l'une des conséquences naturelles de la sexualité, c'est la génération des enfants. Et donc, première conséquence pour la morale chrétienne, c'est évidemment que tout acte qui viserait à empêcher cette finalité, à empêcher positivement cette finalité qui est inscrite dans la nature des choses, eh bien serait un péché, ne serait pas conforme à la volonté du Créateur. Voilà pourquoi tout ce qui est contraception, tout ce qui est, mais aussi toutes les sexualités qui ne correspondent pas à ce plan de Dieu, donc la masturbation, l'homosexualité, et puis tout ce qui est contraception, évidemment n'entre pas dans ce plan du Créateur, puisque c'est un usage désordonné du coup de la sexualité en dehors de ce pourquoi. Le Créateur l'a créé. Alors évidemment, la fin secondaire du mariage, c'est la communion entre les époux et le bien des conjoints. Évidemment, on peut pas séparer l'un de l'autre. Il s'agit pas de se dire on va faire des enfants et de nier le plaisir qui est lié, le bien, d'ailleurs oui, la satisfaction qui est liée à la sexualité, et surtout au fait que dans la sexualité conjugale, il y a une communion, évidemment, qui n'existe nulle part ailleurs, une communion des corps, bien sûr, et des esprits. Bon. Donc, alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai inversé les deux éléments qui sont donnés ici, parce que je trouve que c'est un défaut du catéchisme ici, que je regrette, et je crois que c'est la première fois depuis que je fais ces commentaires que je critique quelque chose de ce catéchisme. Traditionnellement, dans la tradition chrétienne, il y a toujours cette définition du mariage comme pour finalité, d'abord comme fin première, la génération et l'éducation des enfants. Alors, l'éducation des enfants, évidemment, parce que engendrer des enfants, enfin faire des enfants, c'est facile, hein, tous les animaux le font, même les plantes le font. En revanche, faire des enfants pour des hommes, ça inclut l'éducation des enfants, l'éducation totale des enfants, l'éducation intégrale, c'est-à-dire la croissance évidemment physique, mais aussi spirituelle, intellectuelle, morale des enfants. Mais donc la fin première du mariage, c'est la génération et l'éducation des enfants, et a toujours enseigné la théologie classique sur cette question, et la fin secondaire du mariage est la communion et le bien des conjoints, et même le fait que les passions puissent être, le désir sexuel soit accompli, assouvi de façon légitime. Donc, ce que je reproche ici au catéchisme, c'est d'avoir suivi cette évolution que l'on trouve dans le code de droit canon, que l'on trouve déjà dans le Concile Vatican II, dans le texte Gaudium et Spes, qu'on le trouve ensuite dans le code de droit canon, que l'on trouve dans un certain nombre de textes du pape Jean-Paul II, qui place comme à égalité, et même ici en premier lieu, la communion et le bien des conjoints. Alors c'est un peu léger comme évolution, mais je pense que malheureusement c'est assez significatif et que l'union matrimoniale, ça pourrait laisser l'impression, mais qui est fausse, que l'union matrimoniale a d'abord pour but l'accomplissement personnel et ensuite la génération et l'éducation des enfants. Non, si vous avez suivi ce que j'ai dit depuis le début, à savoir que le mariage c'est d'abord le renoncement à soi-même pour un projet supérieur, ils ne sont plus deux mais une seule chair, à savoir fonder un foyer, alors la génération et l'éducation des enfants est bel et bien la fin primaire, première du mariage. Évidemment qu'il ne faut pas se séparer, hein. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire il faut faire des enfants sans que ce soit un bien pour les conjoints, ou sans qu'il y ait de communion, ou ni même de plaisir. Ça sont des déformations que l'Église n'a jamais défendues, évidemment. Ce sont des hérésies, d'ailleurs. C'est soit chez les cathares, soit chez certains protestants, que la sexualité a été vue comme un danger, ou comme un mal. Je voyais une vidéo de quelqu'un qui voulait critiquer l'Église en disant l'Église a toujours eu un problème avec la sexualité, a toujours considéré ça comme mauvais. C'est complètement faux, tout simplement. C'est tout simplement complètement faux. Au contraire, contre un certain nombre d'hérésies et de déformations, l'Église a toujours enseigné que la sexualité conjugale, alors évidemment fondée et structurée par les lois du Créateur, donc conformément au plan de Dieu, donc l'usage de la sexualité, le plaisir sexuel conforme au plan de Dieu, est non seulement bon, une bonne chose, mais non seulement légitime, mais en plus qui est totalement bon, et puisque c'est voulu par Dieu. Alors, voilà, une fois faite cette petite remarque sur l'ordre des fins du mariage, qui me semble importante, eh bien, selon le plan originel de Dieu, l'union matrimoniale est indissoluble, comme Jésus-Christ l'a affirmé. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, on va revenir, parce que j'entends déjà les objections sur l'Ancien Testament, mais on y reviendra plus tard, c'est la question 340. Ici, le catéchisme insiste sur l'indissolubilité qui fait partie du plan originel de Dieu. Oui, depuis le début, Dieu a voulu que ce mariage soit indissoluble. Alors, comme dire aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, qui croit encore à l'indissolubilité du mariage, eh bien je pense que c'est une marque du christianisme. Oui, c'est une marque du christianisme, d'insister sur l'indissolubilité du mariage et d'y croire. Bien sûr, il faut sans doute l'aide de Dieu, il faut sans aucun doute l'aide de Dieu, mais poursuivre le plan originel de Dieu, mais ben, ça fait partie de, plus généralement bien sûr, pour faire le bien, il faut l'aide de Dieu, il faut l'aide de la grâce. Alors, pour conclure, question suivante, comment le péché menace-t-il le mariage? À cause du premier péché, qui a causé aussi la rupture de la communion donnée par le Créateur entre l'homme et la femme, l'union matrimoniale est très souvent menacée par la discorde et l'infidélité. Cependant, dans son infinie miséricorde, Dieu donne à l'homme et à la femme la grâce de réaliser leur union de vie selon son dessein divin originaire. Ah, c'est bien mieux dit ce que je venais d'évoquer, à savoir que eh bien on a besoin de l'aide de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce divine pour que le mariage puisse être non dissous, puisse ne pas être abîmé par la discorde ou l'infidélité. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est à cause du péché originel, évidemment. Comme le péché originel a causé la rupture de l'amour de Dieu, de l'amitié avec Dieu, eh bien la première conséquence, puisque, comme j'ai dit en commençant, l'homme avait été créé immédiatement homme et femme, eh bien de la même façon, le péché a touché d'abord la relation de l'homme avec Dieu, et immédiatement après, la relation entre l'homme et la femme. D'ailleurs, c'est la première phrase qui suit le péché originel. Une fois que Adam et Ève ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre défendu, eh bien, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nudité, quand on se rend compte qu'on est nu, il y a le sentiment de honte, sentiment de faiblesse. C'est-à-dire que, finalement, ils se rendent compte qu'ils peuvent être une proie l'un pour l'autre. Il y a cette insécurité, si vous voulez, de la sexualité humaine, où en fait l'autre devient un prédateur, où l'autre devient un danger ou un objet de convoitise. La femme devient un objet de convoitise pour l'homme, et l'homme devient un prédateur pour la femme. Donc, on en reparlera, mais c'est intéressant de voir que ce décalage dans la sexualité humaine et dans les relations entre hommes et femmes est une conséquence immédiate du péché, et donc qui doit être, elle aussi, soignée par la grâce divine, soignée par l'œuvre du Christ dans le monde. Alors, comme toujours, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par les lumières du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive, une fois encore, de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique et du mariage chrétien. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.